C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. L'uranium de la colère, c'est le titre du documentaire de Martin Boudot, disponible en replay sur le site france.tv jusqu'au 6 avril. L'uranium, c'est celui produit à Arlit, dans le nord du Niger, avant d'être acheminé à Narbonne, dans le sud de la France, où il est purifié pour servir de combustible à nos centrales nucléaires. Et la colère, c'est le sentiment que partagent les habitants d'Arlit et les Narbonnais voisins de la plus grande usine de conversion d'uranium en Europe, tous confrontés à une radioactivité inquiétante.
C'est pas du vent sur RFI.
Martin Boudot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation pour l'agence Première Ligne. L'uranium de la colère fait partie de la série documentaire de France 5, Vers de rage. Bruno Charéron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur nucléaire à la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Martin Boudot, quel a été le point de départ de votre enquête ?
En réalité, comme vous le disiez, Vers de rage est une collection de documentaires d'investigation scientifique sur des problématiques environnementales qui existent depuis bientôt 4 ans. Et on a été contactés par des citoyens de Narbonne en nous disant « Vous devriez regarder ce qui se passe du côté de cette usine-là. Nous, on a du mal à comprendre ce qui s'y passe. Est-ce que c'est une usine chimique ? Est-ce que c'est une usine nucléaire ? Est-ce que c'est une usine de conversion de l'uranium, etc. » Et puis, sur la partie Niger, m'est revenu tout de suite en tête ce que j'avais déjà vu et vécu il y a près de 10 ans, à Mounana, au Gabon, dans une ancienne mine d'uranium d'Areva, Orano aujourd'hui, qui avait été fermée. Et j'avais déjà commencé à enquêter à l'époque pour Cache Investigation sur les impacts radioactifs qui restaient encore sur place. Et à cette époque-là, en 2012, tout le monde à Mounana me disait « Mais vous devriez aller voir ce qui se passe au Niger. » Et donc, en fait, en remettant un peu tout ça dans le contexte, je me suis dit « Mais en fait, on va s'intéresser à la filière de l'uranium depuis les mines du Niger jusque à la transformation à Narbonne. Narbonne, comme vous le disiez, qui accueille en son sein donc cette usine Orano qui est la plus grande usine de transformation d'uranium d'Europe. Donc c'est vraiment, c'est pas rien.
Alors comment avez-vous réussi à vous rendre dans cette zone interdite aux étrangers de cette partie du désert nigérien dans le nord du pays ?
C'est pas une mince affaire, comme vous l'avez compris. On a l'obligation, quand on est journaliste et même étranger de manière générale, de prendre une escorte, une garde armée qui dépend de la garde nationale nigérienne, qui va nous escorter en fait depuis l'aéroport d'Agadez jusqu'à Arlit, car il y a malheureusement des éléments Al-Qaïda, État islamique, dans la région. Vous connaissez évidemment ça, RFI, bien mieux que moi. Et c'est une région qui est instable et qui est donc interdite aux étrangers. Il faut savoir qu'on a fait également la demande auprès d'Orano pour pouvoir visiter l'une de ces mines sur place à Arlit, que ce soit la Cominac ou la Somaïr, dans lequel elle a des participations dans ces deux mines-là. Une autorisation qui nous a été refusée. Donc on y est allé sans l'autorisation d'Areva, mais enfin d'Orano, pardon, mais avec une garde armée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui nous demandait de ne pas rester plus de 15 minutes au même endroit et de ne pas revenir au même endroit parce que les risques de renseignement, d'enlèvement étaient trop importants. Donc voilà, c'était très compliqué et il faut savoir que depuis d'ailleurs notre tournage, il est maintenant impossible de refaire cette expérience-là. C'est-à-dire que même la garde nationale ne fait plus cette espèce d'escorte de Agadez à Arlit. La situation est devenue trop dangereuse.
On va écouter un premier extrait de votre documentaire, Martin.
Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB, mais ne souhaite pas répondre à nos questions par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population. Nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité.
Martin Boudot, donc vous n'êtes pas allé à Arlit seulement avec une caméra pour recueillir des témoignages, pour filmer, mais aussi avec donc ces appareils pour mesurer la radioactivité.
Absolument, c'est là tout l'enjeu de Vert d'Orage, c'est d'essayer de documenter de manière scientifique des pollutions environnementales. Et donc on s'est rapproché de la seule association indépendante experte en la matière en France sur les questions de radioactivité, qui a son propre laboratoire et ses propres outils aussi, qui est donc la CRIRAD, et donc Bruno Charrieron, qui est également votre invité aujourd'hui, et qui nous a guidés, qui nous a aussi formés sur la façon d'utiliser ces compteurs GGR ou ces compteurs à scintillomètre, et également là où, les endroits où il fallait faire des prélèvements et la marche à suivre. Voilà, on a été vraiment guidés sur le terrain par Bruno Charrieron et la CRIRAD.
Donc c'est presque autant un travail d'expert que de journaliste.
C'est un travail de journaliste et quasiment de laborantin, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'exécute ce que me disent les scientifiques. Là, il se trouve que dans ce documentaire-là, c'est Bruno Charrieron qui me guide. Mais quand je travaille sur la pollution de l'air, ça va être avec quelqu'un... Je vais utiliser une machine qui va analyser l'air, ça va être quelqu'un du CNRS. Quand je vais travailler sur les engrais phosphatés, ça va être un toxicologue spécialiste des métaux lourds qui va me dire comment faire des analyses d'urine. Moi, je mets à disposition de ces scientifiques des prélèvements qu'ils n'auraient jamais pu avoir sans nous en réalité. Et donc c'est une sorte de collaboration gagnant-gagnant où moi j'ai grâce à eux une vraie expertise scientifique et eux ont accès à des prélèvements assez inhabituels.
Alors vous vous rendez dans une école d'Arlit et ce que vous découvrez est sidérant.
1400, 1600, 1700, 2700, 3000 coups par seconde.
Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle.
Allez, on y va.
Les mesures en coups par seconde donnent une indication en temps réel des radiations. Les murs de l'école semblent irradiés. Nous appliquons les conseils du professeur Charrieron.
Si le compteur s'affole, c'est important, si possible, de prélever les matériaux solides qui sont à l'origine de cet affolement, les fragments de murs, les échantillons de sol, pour bien vérifier en laboratoire de quelle substance radioactive il s'agit.
Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année.
Bruno Charrieron, quelles sont les conséquences sur la santé de telles doses de radioactivité ?
Alors, sans prendre uniquement ce cas précis où là on est sur vraiment une situation très anormale, il faut voir que les gens qui vivent à Arlit sont exposés à cette radioactivité en permanence. Ils sont exposés aux gaz radioactifs et aux poussières radioactives qui sont dans l'air. Ils sont exposés parce qu'ils boivent de l'eau qui contient de l'uranium, qui est radioactif. Ils sont exposés parce que certaines maisons sont construites avec des matériaux radioactifs,
on va le voir tout
des
à
roches
l'heure.
Ou des ferrailles. Donc, quel est l'impact de tout ça ? Eh bien, d'abord, les personnes sont donc exposées à un surcroît de radioactivité. Toute dose de radiation augmente les risques sanitaires, par exemple, les risques de cancer. Mais aussi, on s'en aperçoit de plus en plus des atteintes à d'autres fonctions vitales, atteintes au système neurologique, au système digestif, au système cardiovasculaire. Cette contamination interne par des métaux lourds radioactifs et cette exposition à la radioactivité augmente les risques sanitaires de manière très globale.
Martin, vous avez rencontré à Arlit Mustapha Al-Hassen. Il a travaillé 37 ans comme technicien sur le site d'Areva, devenu aujourd'hui Orano. Qu'est-ce qui l'a poussé à fonder Agerman, est-ce que je prononce bien ?
Agerman, oui.
Agerman, association de défense de l'environnement et de la population locale.
Mustapha Al-Hassen, il est assez extraordinaire comme monsieur, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un ancien salarié d'Areva, donc il connaît bien Orano aujourd'hui, qui connaît bien donc les rouages de l'usine. Et puis, lui, il nous dit qu'à un moment donné, il en avait marre de voir certains de ses collègues mourir ou être atteints de maladies dont il ne comprenait pas l'origine, à des âges qui lui paraissaient être très anormales. Et donc, du coup, il a décidé de créer cette association-là et notamment de se rapprocher dans un premier temps de la CRIRAD et de Bruno Charrieron dès les années 2000 en disant... Est-ce que vous pouvez nous apporter une expertise scientifique sur les valeurs de radioactivité qu'on a dans la ville et ici? Parce qu'il n'y a pas de laboratoire qui s'intéresse à la radioactivité, qui peut mesurer la radioactivité au Niger. Je pense, et je parle sous le contrôle de Bruno, qu'il n'avait pas non plus de compteur Geiger, ni de capteur scintillomètre. Donc il a commencé à se rapprocher de cette association de la CRIRAD pour justement essayer de faire le bilan, de savoir exactement ce à quoi ils étaient exposé, et quand nous on l'a rencontré, eh ben, force est de constater que 15 ans ou même plus de 15 ans après ces premières constatations, il y a toujours ce qu'on appelle des hotspots, toujours des points chauds de radioactivité dans la ville, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans des auberges, que ce soit dans la rue, etc. Et donc il y a un sentiment, je pense, de la part d'Al-Mustapha Al-Hassen, qui le dit très clairement dans le documentaire, déjà de lassitude, mais également de se dire voilà, le combat n'est pas terminé.
Oui, parce qu'il faut du courage pour mener ce combat. Est-ce que ce combat dérange beaucoup autour de lui ?
Bien sûr, il dérange beaucoup. Je me rappelle même qu'il m'avait raconté que sa femme lui avait interdit à un moment donné de devenir un militant comme tel, parce qu'il savait que ça allait lui attirer des problèmes. Al-Mustapha Al-Hassen, il dérange. Il est une voix essentielle dans l'écosystème de la société civile à Arlit. Il a perçu, lui, de menaces physiques. En tout cas, c'est ce qu'il me raconte. Mais plusieurs fois, on lui reproche de mentir. On lui a reproché plusieurs fois de grossir le trait. On lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes. Et donc oui, évidemment, ce Al-Mustapha Al-Hassen, il subit des pressions, très clairement, pas que de l'industriel, également de l'État nigérien, parce que face à lui, il a quand même deux gros mastodontes, que sont à la fois une multinationale plus l'État nigérien, dont une partie de l'argent dépend des minerais comme l'uranium. Donc c'est un monsieur qui fait preuve, je trouve, moi, d'un courage assez exceptionnel, parce qu'encore une fois, moi, j'y passe 10 jours, 15 jours sur place. Alors évidemment, on est en contact depuis, on a été en contact 6 mois auparavant, mais lui, il y reste. Donc sa prise de parole, elle est précieuse et je pense qu'il faut l'écouter.
Il raconte dans le documentaire que l'exploitation de la mine d'uranium a chassé les animaux de la zone, donc les éleveurs. Tout le monde à Arlit travaille pour les sites miniers ?
Non, pas tout le monde, parce que plus ça va et moins la mine emploie de salariés, notamment depuis que l'une des deux mines a fermé en mars 2021. Il y a encore quelques éleveurs, il y a encore d'autres types de métiers. Mais oui, clairement, là où vous avez raison, c'est que cette ville s'est créée sur la mine. Enfin, c'est une ville minière. Elle s'est créée avec la découverte de l'uranium. On appelait à un moment donné Arlit le deuxième Paris, ou le petit Paris, le deuxième Paris, je crois, parce qu'on avait ce rêve que Arlit se développe tant grâce à l'uranium qu'elle devienne aussi belle, cette ville devienne aussi belle que Paris en France, qu'elle soit l'équivalent de Paris au Niger. Quand on voit aujourd'hui l'état des infrastructures, force est de constater qu'on est malheureusement très loin du modèle parisien.
Alors, dans votre documentaire, vous continuez à explorer Arlit et vous allez de découverte en découverte.
Sur le marché d'Arlit, nous retrouvons cette fois du matériel directement issu des mines d'uranium.
En fait, je crois que c'est les rails des flèches. Ah. Des différentes flèches.
D'accord, qui étaient dans la mine. Voilà.
Les niveaux de radiation semblent si élevés que nous devons utiliser un autre outil, un compteur Geiger qui mesure les doses de radioactivité par heure et non plus par seconde.
Là, on a 9,99 microsieverts par heure, c'est-à-dire qu'on est, au maximum que ce que la machine peut absorber. On est largement au-dessus de toutes les normes sanitaires et environnementales. Pas trop qu'on reste ici, d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Ici, la radioactivité est deux fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl.
Une radioactivité deux fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl, Bruno Charéron, ça paraît fou ?
Alors, la comparaison avec Tchernobyl est difficile. Dans la zone de Tchernobyl, il y a des points encore plus radioactifs que ça et des points qui sont moins radioactifs. Mais ce qui est certain, c'est que effectivement, à Arlit, il y a des roches, des ferrailles, des objets contaminés qui sont vraiment notablement radioactifs et qui présentent des risques sanitaires à la fois par les radiations qu'ils émettent et qui sont d'autant plus impactantes qu'on s'en approche, mais aussi par l'inhalation. Il faut bien voir que, par exemple, lorsque dans le reportage, on voit un des ferrailleurs qui coupe ce rail avec une meuleuse sans aucune protection, c'est complètement invraisemblable parce que là, il y a en plus évidemment le risque d'inhaler des poussières radioactives. Donc c'est évidemment une situation profondément choquante, d'autant plus choquante que ce problème des ferrailles contaminées en vente au marché à Arlit et à Cocan, nous l'avons déjà documenté, la CRIRAD, sur place en décembre 2003. Et que l'ONG AgriInman, avec le matériel qu'on leur a confié, le documente très régulièrement. Et que Greenpeace, qui est allé sur place en 2009, l'a également documenté. Et que Martin Boudot, donc en 2020, retombe sur ce même problème. Ben, ce qu'on est en train de dire sur les ferrailles radioactives, à Arlit, c'est vrai, sur beaucoup d'autres atteintes à l'environnement, il faut un combat inlassable pour obtenir quelques petits progrès. Et je voudrais moi aussi rendre un hommage très appuyé au travail que fait AgriInman, son président Al-Mustapha Al-Hassen et toute l'équipe, parce qu'ils font franchement preuve d'un très grand courage, d'une très grande sagesse aussi, et d'une très grande mesure dans leurs propos. Et ils mènent un combat qui est vraiment admirable.
Quand on voit les doses de radioactivité, est-ce que ça veut dire que personne ne devrait habiter à proximité de la zone minière ou même dans la ville d'Arlit?
En tout cas, il est clair qu'avoir construit une ville minière avec des enfants, du coup, des populations avec des femmes et des enfants, aussi près des zones minières et avec une telle imprégnation de leur quotidien, l'air, l'eau, ce qu'il y a dans la maison qui est radioactif, c'est tout à fait anormal. Et d'ailleurs, lorsqu'Areva a eu le projet de développer une nouvelle mine au Niger, la mine d'Imouraren, ils ont plutôt réfléchi à ne pas refaire cette erreur et à ne pas, évidemment, construire la partie habitation des populations à côté.
Martin, vous filmez dans une auberge où vivent des jeunes. Le taux de radioactivité est 52 fois supérieur à la normale. Est-ce que ça signifie que ces jeunes sont condamnés à court ou moyen terme à avoir de gros problèmes de santé?
J'aimerais vous dire que ce serait le cas. Ce serait beaucoup plus simple d'un point de vue journalistique et scientifique. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. L'uranium et la radioactivité ont des conséquences qui sont parfois très difficile à documenter. En fait, contrairement à l'amiante, où par exemple vous avez un cancer du poumon qui est lié à votre exposition à l'amiante, l'uranium, c'est beaucoup plus compliqué de dire ma leucémie, mon cancer de la thyroïde est dû à mon exposition à l'uranium. Parce qu'en réalité, l'uranium va... la radioactivité de manière générale, parce qu'on parle de l'uranium, mais il y a aussi le radon qui est un gaz inodore qui émane de l'uranium, qui lui favorise plutôt les cancers du poumon. Cette radioactivité-là, pardonnez-moi du terme, favoriser tout un tas de maladies, et pas des maladies uniquement liées à l'uranium ou la radioactivité. Évidemment, vous en avez certaines qui sont considérées comme liées à la radioactivité, notamment dans le tableau des maladies professionnelles. Mais ces jeunes gens, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont exposés à des doses de radioactivité qui sont inacceptables et que, comme le disait Bruno Charéron en introduction, toute dose de radioactivité augmente le risque sanitaire. Donc, en réalité, il faudrait qu'on puisse faire une étude dans quelques années, notamment une étude épidémiologique, pour savoir où en sont ces jeunes gens. Mais ce n'est pas comme une pollution, et c'est là où tout est la difficulté réelle de cette pollution à la radioactivité et l'uranium. Ce n'est pas comme une pollution aux métaux lourds, comme une pollution aux pesticides ou une pollution à un produit chimique en particulier. L'uranium, la radioactivité, c'est des pollutions qui sont chroniques, très difficiles à documenter et dont le lien entre l'exposition et la maladie est encore plus difficile. Imaginez que seul un Français qui a travaillé 7 ans dans la mine d'Arlit a eu, lui, la possibilité de reconnaître sa maladie comme étant liée à l'exposition à l'uranium.
Alors que les employés nigériens,
jamais un seul Nigérien qui a travaillé dans la mine d'Arlit n'a été malade à cause de la radioactivité. Zéro. Donc il y a deux options. Soit les Nigériens sont des surhommes, c'est possible. Soit effectivement il y a peut-être une malconnaissance et une prise en charge insuffisante des maladies professionnelles et de tout ce qui est lié à la radioactivité à Arlit.
Vous avez été reçu à Niamey par Moussa Soulé, le directeur de la filiale d'Orano. Il travaille dans le groupe depuis 30 ans. Interview et surtout réponse à vos questions édifiantes.
Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une bonne gestion
des déchets sur le site d'Arlit.
Mais absolument, à partir du moment où elle répond à des critères correspondant à des normes internationales, nous n'avons pas d'échappée ou de pic. Nous considérons que ces résultats sont satisfaisants.
On a trouvé quelque chose et je voulais vous le montrer. On a trouvé des ferrailles sur le marché qui servent à en tant que poutre. Comment expliquer qu'on retrouve ces ferrailles-là dans les maisons et sur les marchés d'Arlit?
Je vous répondrai pas à cette question, je vous dis. D'accord. Il y a un cadre de travail qui est défini pour traiter la question. Et normalement, la question que vous posez, elle devait avoir été traitée dans ce cadre-là.
Ça vous inquiète potentiellement qu'on retrouve ce genre de ferraille chez les gens?
Je ne verserai pas dans l'affectif,
l'émotion.
Je m'interrogerai sur qu'est-ce qu'il faut renforcer dans nos mesures pour que cela ne se reproduise pas. Pleurer sur cela ne règle pas le problème.
Comment expliquer que votre groupe a pu laisser ça comme ça à la portée de chacun?
C'est pas que le groupe a laissé ça à la portée de chacun. C'est pas que nous avons ouvert la porte pour donner quelques bennes ou quelques tonnes de matériaux de ce type pour faire de la construction. C'est arrivé souvent malgré nos dispositifs.
Nous lui présentons nos résultats de mesures de radioactivité dans les maisons, l'auberge, l'école et même dans la rue.
Il y a quelques petites failles, mais le dispositif, lui, la mesure en place, elle reste bonne et le mode de gestion, il reste bon.
Moussa Soulé reconnaît quelques petites failles. Martin, comment vous expliquez qu'il soit à ce point dans le déni?
L'industrie nucléaire, de manière générale, nie en bloc dès qu'il y a une suspicion, une mise en cause, quelle qu'elle soit. Quand on travaille également en France, qu'on fait des mesures autour du site de Malvézy, donc à Narbonne, qui va purifier l'uranium, notamment du Niger, on documente très simplement un impact environnemental dans l'eau, dans l'écorce, dans les sols, etc. Il n'y a pas de discussion. Et pourtant, le directeur du site nous dit qu'il n'y a pas d'impact environnemental. Et ce que je vous décris là avec Malvézy, ce que vous avez vous diffusé avec le Niger, c'est deux exemples parmi des dizaines d'autres auxquels ont été confrontés par exemple les ingénieurs de la CRIRAD et notamment Bruno Chaheron, qui, quand il apporte une information documentée scientifique sur une pollution ou sur une exposition ou sur des niveaux qui sont anormalement élevés, il a en face de lui une négation permanente, une discussion qui n'existe pas. On lui dit tout simplement ce que vous dites. Enfin, c'est pas là, c'est malheureusement, et honnêtement, moi, ça me surprend, je suis le premier surpris. On pourrait très bien imaginer qu'Orano dise, que ce soit sur Malvézy ou donc en France ou à Arlit au Niger, OK, merci de nous l'avoir montré, on va faire le maximum et vraiment, je peux vous assurer qu'on va prendre le problème à bras-le-corps et que si vous revenez dans deux ans, il y aura plus ce problème-là. Par exemple, ils l'ont fait à Malvézy quand je leur ai montré les niveaux de radioactivité à la bordure qui étaient beaucoup plus élevés que le milieu naturel. Ils ont changé leur fût, c'est-à-dire qu'ils ont réaménagé leur fût à l'intérieur de l'usine pour que les fûts les plus radioactifs ne soient pas les plus proches de la bordure. Donc voilà, ils sont capables de le faire. Donc moi, je suis toujours très surpris par ce point de vue très très étrange. Voilà, c'est même si la science vous dit le contraire, vous restez droit dans vos bottes. C'est assez surprenant.
Parce que les tiges de ferraille radioactive que vous avez découvertes sur le marché d'Arlit, ce ne serait pas très compliqué, j'imagine, de les récupérer pour empêcher qu'elles servent de poutre, justement, quand on construit des maisons.
Ça fait plus de 15 ans que c'est documenté. Ces tiges-là, Bruno Chaheron et Hagerinmann, ils ont documenté la présence de ces tiges-là il y a déjà plus de 15 ans. Donc oui, évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que Orano, avec d'autres partenaires locaux, a quand même changé certains toits qui avaient déjà des poutres ou certaines constructions qui étaient faites avec des stériles, des résidus miniers. Ça a déjà été fait, mais il en reste encore. Et il en reste 15 ans après. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est tout simplement inacceptable.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Richard, pays de avant d'être pillé. C'était très bien payé.
Payé, payé.
Même si quelqu'un a volé, ce quelqu'un était prisonnier. Pillé, c'est pas payé. Pillé, c'est sous-payé. Pillé, c'est pas payé.
Pierre Akendengue sur RFI dans C'est pas du vent. On continue à parler du documentaire L'uranium de la colère avec son réalisateur Martin Boudot et avec Bruno Charéron, ingénieur nucléaire à la CRIRAD, la commission de recherche et d'information sur la radioactivité.
Des pollutions radioactives au Niger et en France. Pour comprendre, il faut suivre la route de l'uranium. Le minerai, une fois mis en fût, traverse toute l'Afrique jusqu'en Europe et jusqu'à Narbonne, dans l'Aude. Cette usine d'Orano est la porte d'entrée de l'uranium en Europe. Elle réceptionne le minerai du Niger et du monde entier pour le purifier pour les centrales nucléaires. Ce procédé entraîne de nombreux déchets radioactifs stockés dans ces bassins. La famille Hurtado habite Narbonne depuis plusieurs générations. Cette ville, Fabrice l'a chérie par-dessus tout. Il affirme que l'usine pollue la zone depuis des années.
C'est une décharge à ciel ouvert. C'est une décharge à ciel ouvert qui se mélange avec notre viticulture, avec notre patrimoine environnemental.
Il y a combien de déchets aujourd'hui ici entreposés ?
Orano, donc, aurait à peu près entre 300 000 et 400 000 mètres cubes de résidus, d'effluents radioactifs, à traiter dans les 40 ans à venir.
C'est la plus grande poubelle radioactive à ciel ouvert d'Europe, c'est ce que vous dit Fabrice Hurtado, mais à Narbonne, Martin Boudot, c'est l'Omerta.
Alors non seulement c'est l'Omerta, mais en plus c'est l'inconnu. C'est-à-dire que cette usine, jusqu'à une petite dizaine d'années, tous les Narbonnais pensaient que c'était simplement une usine chimique. L'uranium, la radioactivité, ce n'était pas vraiment la question. C'était une usine classée Seveso, mais une usine chimique, comme il y en a évidemment de nombreuses en France. Et... L'omerta, en tout cas, c'est le mot qui est revenu, oui, dans pas mal de discussions avec les habitants. Il faut savoir qu'Orano verse près de 2 millions d'euros par an à Narbonne et au Grand Narbonnais. Orano finance aussi le rugby local. Vous verrez, si vous regardez le rugby de Narbonne, vous verrez le logo Orano sur les maillots. Et puis, c'est un gros pourvoyeur d'emplois. C'est un employeur important aussi. Donc oui, beaucoup de Narbonnais disent avoir un peu peur de parler avec leurs amis de l'impact potentiel de cette usine. Donc c'était intéressant de voir le contraste.
Et l'on constate dans votre documentaire l'impuissance même des élus qui sont interpellés par un collectif de citoyens. L'un d'eux reconnaît l'absence de transparence autour de l'usine Orano, mais ajoute « Nous n'avons aucun levier pour obtenir plus de transparence ».
Là, c'est même pas un élu, c'est Monsieur le maire. Oui. Enfin, il est élu,
ah, c'est Monsieur le maire.
Monsieur le maire. Oui. C'est carrément Monsieur le maire qui reconnaît lors d'un conseil municipal qu'il n'arrive pas lui-même à avoir plus d'infos.
Mais est-ce qu'il essaye ?
Je crois qu'ils ont, déjà essayé, oui, ils ont déjà essayé d'avoir des discussions avec Orano, mais je pense qu'il y a effectivement, dans la transmission d'informations, manifestement un problème, puisque des élus constatent la même chose et que même monsieur le maire s'en émeut. Donc je pense que oui, ils essayent quand même de savoir un peu ce qui s'y passe. Et puis il y a de plus en plus une pression citoyenne. Il faut savoir qu'il y a aussi un collectif qui s'est créé pendant que nous étions en train de tourner sur place, qui s'appelle le collectif Vigilance Malvésie, qui travaille avec la CRIRAD justement pour essayer de mieux documenter en faisant des prélèvements de sol, des prélèvements d'eau, etc., etc., autour du site, des prélèvements, enfin des analyses aussi de radioactivité, des citoyens qui ont décidé de se mobiliser et de se rassembler pour mieux documenter l'impact potentiel de cette usine autour de Narbonne.
Alors vous reprenez la même méthode qu'à Arlit, vous mesurez la radioactivité et ce qui est frappant entre autres, hein, c'est que les fûts dont vous parliez tout à l'heure et qui contiennent de l'uranium, lorsque vous vous en approchez, les bip-bip de votre appareil s'accélèrent. Alors vous expliquiez que l'usine a décidé de les éloigner des zones habitées, si l'on
piétonne,
veut.
Piétonne, oui.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas un couvercle un peu comme le sarcophage
de Tchernobyl
qui, voilà, exactement, qui recouvre le réacteur de Tchernobyl?
C'est une des questions que je pose au directeur du site en disant, mais voilà, c'est peut-être une question naïve, mais pourquoi ces fûts radioactifs, on ne peut pas mieux les entreposer, notamment les couvrir? Et il me dit qu'ils ont déjà commencé à réorganiser, mais pour l'instant, qu'il n'est pas question de les couvrir. C'est vraiment une... Ouais, c'est, pour moi, ça me paraît comme quelque chose d'assez évident, mais peut-être que même Bruno Chaeron trouverait que ça réduirait pas forcément beaucoup la radioactivité à la bordure si tous ces fûts étaient convenablement scellés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Cette problématique de la radioactivité à la clôture, donc on l'avait soulevée en 2006 et on avait demandé devant l'exploitant, donc Comurex... Areva, et devant les élus, à ce que ce soit amélioré. Alors, améliorer, ça veut dire améliorer sur deux aspects. Un, limiter le taux de radiation à la clôture. Donc ça veut dire éloigner la distance entre les fûts et les personnes à l'extérieur. Donc ça, c'est faisable. Deux, gérer le problème. Deux, limiter par des barrières biologiques, ce qui est fait sur d'autres sites, c'est-à-dire des merlons de terre, des buttes de terre, qui arrêtent en partie les rayonnements émis par les fûts. Par contre, ils vont rebondir dans l'air et redescendre de l'autre côté. Mais ce qui est important aussi en couvrant ce parc à fûts, c'est de limiter les risques en cas d'impact d'origine, un camion qui fonce sur le site, un missile qui est tiré sur le parc à fûts, je ne veux pas citer tout ce qu'on peut imaginer, mais voir qu'il y a autant de radioactivité, il y a quand même 30 000 tonnes de concentrés d'uranium qui sont là sur ce parc à fûts, je parle des chiffres d'il y a un an et demi, voir que ce sont de simples fûts métalliques à l'air libre, c'est choquant, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Une petite anecdote, un autre journaliste qui avait enquêté à Arlit en 2009 avait pu interviewer un ingénieur d'Areva qui dit devant la caméra qu'il n'y a pas de radioactivité qui sort de ses fûts parce que le métal arrête toute la radioactivité. C'est évidemment complètement faux. La radioactivité se détecte même à 200 mètres de distance de la clôture du parc à fûts.
Et l'eau contaminée par les résidus d'uranium, hein, on le voit dans le documentaire, hein, c'est bien ça Martin, se déverse dans un canal qui traverse Narbonne et finit dans la Méditerranée. Et là aussi, à part le collectif de citoyens, personne ne s'en inquiète. Martin ?
Alors, personne ne s'en inquiète. Il y a quand même des contrôles qui sont faits par les instances. Il faut savoir que cette usine de Malvésie, donc gérée par Orano, a déjà été condamnée plusieurs fois pour des faits de pollution par la préfecture et par l'État de manière générale sur des pollutions diverses de produits chimiques. La CRIRAD et d'autres citoyens ont aussi montré qu'il y avait effectivement des taux d'uranium qui étaient plus élevés dans ce canal-là que dans d'autres endroits autour de ce canal et en aval notamment, en amont pardon. Et donc de vous dire qu'il y a une forte mobilisation pour que ça s'arrête. Non, c'est pas le cas, voilà. Mais en revanche, il y a des contrôles de l'État, mais Orano dit, bah écoutez, nous, on a, vous savez, chaque usine a le droit à une sorte de taux de pollution, elle a le droit de rejeter X litres d'uranium, X litres de polluants, etc., comme c'est le principe dans chaque usine en France. Et Orano affirme que sa pollution, ses émissions de pollution sont dans le cadre réglementaire qui lui est imposé par la préfecture.
Alors les jours de tempête ou de grand vent, des rafales d'embruns radioactifs déferlent sur la propriété d'une autre famille de riverains. Et une fois qu'on a inhalé ou respiré cette poussière radioactive, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact sur la santé, Bruno?
Alors d'abord, cette poussière radioactive, elle contient beaucoup d'éléments différents radioactifs, l'uranium, mais aussi par exemple du radium, du technétium-99. Donc une personne qui inhale cette poussière voit des métaux lourds radioactifs entrer dans son organisme. Donc en fonction de la nature de ces éléments, certains vont aller, par exemple l'uranium peut se fixer sur les os. D'autres vont se fixer dans d'autres organes. Et ces éléments, en se désintégrant, puisqu'ils sont radioactifs, vont créer des lésions dans les cellules, qui parfois ne vont pas avoir de conséquences, mais qui, si elles ne sont pas correctement réparées par notre organisme, vont conduire à une augmentation des risques sanitaires, et c'est souvent à long terme, hein, c'est-à-dire qu'une contamination peut induire un cancer 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. C'est donc très difficile de documenter précisément les effets sanitaires.
Même il faut problème faire pour ça.
Exactement, il faut faire des études épidémiologiques et c'est très difficile. C'est pour ça qu'à la CRIRAD, pour nous, ce qui est très important, c'est de ne pas tomber dans ce piège de devoir à tout prix quantifier les effets sanitaires. Ce n'est scientifiquement pas possible, à moins de faire des études quasiment impossibles, les études épidémiologiques. Nous, ce que nous disons, c'est que il y a une contamination mesurable. On trouve un excès d'uranium, par exemple, dans les feuilles de cyprès sous les vents du site. On en trouve, par exemple, 20 fois plus, 30 fois plus que quand on est loin du site. Il y a donc bien une contamination de l'air, et c'est logique. Donc, les gens le respirent, et donc ça va augmenter les risques sanitaires pour cette population. On est heureusement dans ce qu'on appelle les très faibles doses, c'est-à-dire que les gens ne vont pas tomber comme des mouches, mais à terme, ça va augmenter les risques sanitaires.
Vous avez eu droit, Martin Boudot, à une petite visite guidée du site par le directeur Stéphane Jolivet.
Sur les entrepôts de fuse, est-ce que ça a un impact sur l'environnement ici?
Voilà, là, je vais être très clair. Ce site n'a aucun impact sanitaire sur son environnement et n'a aucun impact sanitaire sur le personnel qui y travaille et sur les riverains.
Et pourtant, il y a des analyses qui ont été réalisées, par exemple, au niveau des nappes phréatiques. Là, sur certains points, comme le point S56 ou même d'autres, on atteint 1,38 mg, soit 138 fois au-dessus.
Bon. De toute manière, toutes les activités industrielles, forcément, ont une empreinte. Le problème, ce n'est pas d'avoir une empreinte. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, on est très en dessous des valeurs seuils qui sont fixées dans notre arrêté préfectoral. Le sujet, c'est quel est l'impact sanitaire? Et moi, je vais vous donner la réponse. Il n'y a aucun impact sanitaire. Moi, je n'ai rien à cacher sur ce site. Et encore une fois, ce sera ma conclusion, ce site, il n'a aucun impact environnemental et ni aucun impact sanitaire.
Martin Boudot, aucun impact sanitaire et environnemental, affirme Stéphane Jolivet. Une réaction de déni encore?
Oui, et puis là, enfin, malheureusement, il se met un peu en difficulté tout seul. C'est-à-dire que sur l'impact environnemental, c'est pas moi, Martin Boudot, et notre équipe à Verre d'Orage qui le mettons face à des nouveaux éléments. On le fait, mais le gendarme du nucléaire, qui s'appelle l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire, c'est eux qui vont faire des contrôles dans les terres, dans le maïs, faire des prélèvements. Ce qu'on fait. Il y a une entité étatique qui le fait en France. Eh bien, eux-mêmes disent qu'il y a bien un impact environnemental. Ils découvrent qu'il y a 100, 200, 300 fois plus de taux d'uranium dans le blé qui est à côté de Malvézy, de cette usine-là. Ils ont prouvé à de multiples reprises qu'il y avait bien un impact environnemental. Le travail de la CRIRAD et de Bruno Chaeron a également prouvé ceci. Donc...
Mais en même temps, l'expert de l'IRSN vous dit ce dépassement des normes, les conséquences en sont infime pour la santé.
Il dit deux choses. Il dit qu'il y a bien un impact environnemental, mais sur l'impact en termes sanitaires, nous, on continue d'enquêter. Et effectivement, là, au moment où ils enquêtent, au moment de leur conclusion, ils disent qu'il n'y a pas d'impact sanitaire. Pour autant, ils continuent de faire des analyses et notamment d'installer des nouveaux capteurs d'air autour de l'usine de Malvézy, beaucoup plus proche, avec beaucoup plus de sens par rapport à la direction du vent. Et c'est ce à quoi aussi on assiste également, où ils vont installer dans une famille, celle qui avait filmé les bassins qui débordent lorsqu'il y a du vent, ils vont placer chez eux une pompe à air qui va mesurer pendant plusieurs mois, plusieurs années, l'impact réel que les habitants pourraient avoir.
Pour l'impact sanitaire, je voudrais vous donner une anecdote malheureuse. Par rapport à l'impact sur les travailleurs, par exemple. Nous connaissons bien à la CRIRAD un homme qui s'appelle Michel Leclerc, qui a travaillé comme sous-traitant de cette entreprise de Malvézy plusieurs années et qui ensuite a eu, et a toujours d'ailleurs, une leucémie. La justice a reconnu que sa leucémie était très probablement liée à son exposition à l'uranium. Mais il a dû voler pratiquement son dossier médical, car l'entreprise ne voulait pas le lui remettre. Il l'a donc arraché des mains d'un médecin pour constater que dans son dossier, il y avait effectivement des résultats de contamination de ses urines par l'uranium très élevés. Que dit l'industriel ? L'industriel dit, s'il y a beaucoup d'uranium dans vos urines, c'est probablement parce qu'au moment de faire le prélèvement, vous n'aviez pas les mains propres ou vos vêtements étaient souillés par l'uranium. Autrement dit, ce n'est pas de l'uranium qui vient de vous. Vous n'étiez pas contaminé, il va dans le flacon. Tout ça pour vous dire que même lorsqu'il y a des salariés qui ont des pathologies qui peuvent très probablement avoir un lien avec leur exposition, c'est du déni. Donc par rapport à cette question de l'impact sanitaire, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'industriel n'est pas prêt à voir la réalité. Il ne l'admet même pas pour des impacts évidents. Quand vous avez un compteur GGR qui voit 50 fois plus de radioactivité à la clôture de votre site, c'est bien un impact environnemental. Eh bien, si même ça, ce n'est pas un impact, vous imaginez bien que tout ce qui est sanitaire, qui est beaucoup plus compliqué à objectiver, parce qu'une pathologie, c'est très difficile de relier une pathologie à l'exposition à une substance radioactive. Donc c'est très facile du coup pour les industriels du secteur de prétendre qu'il n'y a pas d'impact sanitaire.
Je vous propose maintenant de prendre un autre exemple de l'impact de l'extraction d'uranium sur l'environnement et les populations. Direction Mounana, petit village du sud-est du Gabon devenu une ville de 7000 habitants. Pendant 40 ans, la COMUF, la compagnie des mines d'uranium de Franceville, une filiale d'Areva, Areva aujourd'hui Orano, a exploité les différents gisements. 26 000 tonnes d'uranium ont été produites jusqu'en 1999, date de la fermeture du site. En 2011, Igor Strauss était allé enquêter sur place. Il avait rencontré Moïse Moëlé Massa, le représentant des anciens travailleurs de la COMUF.
Là, je vais vous amener vers la passerelle là-bas, où rien n'est fait, où tout est encore brut. La boue de l'usine est visible à l'œil nu. Et je pense que le compteur GGR que vous avez amené là, ça va bien parler là-bas. Ici, on est toujours dans la zone d'Ombana. Là, on traverse, c'est la passerelle qu'ils ont faite pour traverser les marécages de Mitembe. Et ces marécages-là ont été provoqués par la boue de l'usine. Là, vous voyez que vous êtes au bord de la rivière là. Vous n'êtes pas dans l'eau. Vous êtes au bord de la rivière là et il y a la boue. Et vous voyez ce que le compteur donne.
Donc, effectivement, j'ai mis le compteur GGR par terre. Oui. Et là, ça fait donc même pas deux minutes. On est déjà à 5,09.
5,09, c'est énorme.
Ce qui fait plus de 50 fois la norme.
Oui. Les animaux, ils circulent. Les gens, ils circulent. Une antilope qui vit ici, si je la tue, elle a la radioactivité, je vais la manger, j'aurai toujours la radioactivité à moi. Même si les politiques de Mounana ne voient pas ça, nous autres, la population, on voit qu'il y a encore à faire. Voilà. Alors, on fait quoi? On va continuer à mourir ici? Ou bien comme il va faire quelque chose pour anéantir cette radioactivité. Si moi j'arrête de pêcher le poisson ici, comme il me donne quoi? Un kilo de poisson coûte 2500 dans la boutique. Je vais arrêter de pêcher. Comme il va me donner quoi en échange? je vais manger quoi? La population continue à pêcher parce que la précarité. Le ventre enflammé n'a point d'oreille.
Martin Boudot, vous en parliez au début de l'émission, vous aussi, vous vous êtes rendu au Gabon, à Mounana, et vous connaissez Moïse Moïlé Massa.
Bien sûr, oui, c'est ma première expérience avec, avec Orano et la question des pollutions liées au nucléaire date de cette époque-là, 2012, moi c'était quelques mois après Igor Strauss, et donc j'avais aussi rencontré Moïse et j'avais aussi pu mesurer plusieurs endroits chauds, notamment des maisons encore, c'est toujours un peu la même problématique, hein, c'est-à-dire que les populations sur place, d'une mauvaise gestion de l'usine et de l'industriel, vont récupérer ce qu'on appelle les stériles, les résidus miniers, et vont construire leur maison avec du sable radioactif, hein, du minerai radioactif. Donc c'était un vrai gros problème là-bas, et je salue d'ailleurs tous les habitants de Mounana pour qui j'ai le plus grand respect parce qu'ils continuent aussi de se battre alors même que l'industriel pour le coup est parti.
Et la Comuf a mis 20 ans avant de fournir de nouveaux logements aux victimes de la pollution radioactive qui avaient habité dans ces logements donc contaminés.
Absolument.
Ça pose le problème de la décontamination des sites, Bruno Charrero.
Bien sûr, et ça pose d'abord le problème de l'information correcte des populations, le problème des dispositifs de surveillance officielle de la radioactivité qui sont totalement inopérants, incapables de voir la réalité. Ça, c'est quelque chose qui est profondément choquant. C'est que autour de pratiquement toutes les mines d'uranium qu'on a contrôlées, la CRIRAD, dans le monde, on retombe sur des problèmes d'exposition importante, très importante, à la radioactivité, alors que les systèmes de surveillance officiels ne le voient pas. Et même quand on dénonce les situations, il faut parfois des années, parfois des décennies, pour que ça évolue. Or, il y a des progrès possibles, la décontamination est possible. Les boues radioactives dont parle Moïse, on peut les enlever. Il faut les enlever dans cette zone marécageuse où les femmes vont tremper le manioc. C'est qu'une question de volonté et de moyens. Les maisons contaminées, elles peuvent être rasées et remplacées par des maisons neuves, non contaminées. Tout ça, c'est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une volonté très forte et une énergie incroyable des populations aidées par des journalistes ou des scientifiques indépendants. Et puis, il faudrait aussi que les autorités de ces pays prennent le taureau par les cornes. Mais on n'a pas de leçon à leur donner. En France aussi, malheureusement, aujourd'hui, il y a des zones d'anciennes mines d'uranium où il y a des contaminations qui sont absolument anormales.
Martin Boudot, pour la première fois en France, 27 Nigériens d'Arlit ont porté plainte contre X pour homicide et blessures involontaires liées à l'extraction d'uranium. Où en est la procédure ?
Elle est toujours en cours d'étude, c'est-à-dire que l'instruction n'a pas encore commencé. La justice française se demande si elle est recevable ou pas. Donc c'est normal, comme c'est un peu une première, ça prend du temps, et on connaît le temps de la justice en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette plainte-là de ces 27 Nigériens, et nous on a notamment pu y apporter notre petite contribution en y intégrant nos analyses de cheveux, donc sur les niveaux d'uranium, dans les cheveux de plusieurs travailleurs et de la population. Les analyses de métaux réalisées également, les prélèvements et les analyses avec le compteur Gégère. Donc voilà, toute cette plainte aussi, il y a toute une partie qui se sert de notre travail. Et tant mieux. Tant mieux, nous, notre ambition à Verdorage, c'est de pouvoir faire des documentaires d'investigation scientifique sur les problématiques environnementales et de voir comment les citoyens s'en emparent. Et là, il se trouve que ça peut servir à 27 Nigériens pour défendre leur cas. Donc tant mieux.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de C'est pas du vent, Bruno Charrero et Martin Boudot. Martin, votre documentaire L'uranium de la colère est à voir sur le site de France 5, France.tv, jusqu'au 6 avril. Merci à François Porcheron qui a réalisé cette émission. À bientôt et portez-vous bien.